Et si le texte le plus célèbre de l'histoire humaine, celui qui ouvre le livre le plus lu au monde, n'avait jamais eu pour but de raconter la création matérielle de l'univers?
C'est une idée qui donne un peu le vertige, je l'avoue.
Complètement. Et si en fait c'était plutôt une arme politique redoutable? C'est la question qui se pose quand on place le livre de la Genèse sous le microscope des historiens et des archéologues modernes. Bon, décortiquons ça, parce que c'est assez dense.
Très dense, oui. Il y a beaucoup de couches à enlever.
Notre exploration d'aujourd'hui plonge vraiment au cœur d'un brouillard analytique. On a sur la table les notes de la 7e conférence d'histoire de l'Ancien Testament du professeur Robert Van Hoy.
Un document fascinant d'ailleurs.
Ouais, la mission de cette analyse dépaillée, c'est vraiment de comprendre comment les érudits luttent, texte à l'appui, avec le tout premier chapitre de la Genèse. S'agit-il d'une histoire chronologique stricte, d'un artifice littéraire ou d'une riposte stratégique face à d'autres mythes?
Et là, il faut établir une règle du jeu immédiate pour ceux qui nous écoutent. Notre rôle dans cette exploration, c'est absolument pas de prendre parti.
Ah non, pas du tout, on garde nos distances. Voilà, l'objectif c'est d'examiner ces sources universitaires et de disséquer de manière impartiale les arguments. Ces notes de Van Hoy, en fait, c'est un carrefour où s'entrechoquent la linguistique ancienne, la géologie et la philosophie pure. On cherche pas à savoir qui a raison, mais comment chaque camp construit sa vision du monde, c'est clair. Et l'investigation commence logiquement par le texte lui-même, bien avant de regarder ce qui se faisait dans les empires voisins. Le grand champ de bataille interne, ça tourne autour de ces fameux 6 jours de création.
Le fameux débat littéral contre métaphorique, oui.
Exactement. Sauf que les notes de Van Hoy introduisent une troisième voie qui a l'air de gagner énormément de terrain chez les érudits évangéliques. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du cadre littéraire. Concrètement, c'est quoi cette idée?
Cette hypothèse propose que l'auteur de la Genèse a utilisé la semaine de travail humaine comme une simple, disons, une grille de présentation.
Une grille? C'est-à-dire pas une chronologie.
C'est ça. Au lieu de raconter une séquence temporelle stricte, le texte organiserait la création de manière purement thématique. Les partisans de cette théorie soulignent un parallélisme frappant entre les 3 premiers jours et les 3 suivants.
Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont l'architecture même du texte change notre perception de l'histoire.
Exactement. Regardez bien. Le premier jour, la lumière est séparée des ténèbres, ce qui crée un espace. Et ça correspond parfaitement au 4e jour, où le soleil, la lune et les étoiles sont placés pour remplir cet espace précis.
Ah, je vois. C'est un peu comme si les 3 premiers jours, on construisait les pièces d'une maison, on pose les murs, on fait des espaces.
Oui, on fait les travaux de gros œuvres, en quelque sorte.
Et les 3 jours suivants, on installe les meubles et on fait rentrer les habitants.
C'est la mécanique exacte de cette hypothèse. Le 2e jour sépare les eaux d'en bas et le ciel. Et bim, le 5e jour peuple ces mêmes espaces avec les poissons et les oiseaux.
C'est super symétrique en fait.
Très symétrique. Et le 3e jour fait apparaître la terre ferme et la végétation. Et hop, le 6e jour voit l'arrivée des animaux terrestres et des humains pour consommer cette végétation. L'argument de ce camp, c'est que cette symétrie parfaite, c'est la signature d'un poète. Pas celle d'un historien qui regarde sa montre.
La structure est indéniablement élégante, faut l'avouer. Mais dans ses notes, Robert Van Hoy a l'air de freiner des 4 fers face à cette interprétation. C'est quoi son problème avec ça?
Van Hoy soulève une objection méthodologique majeure. Il souligne que, en fait, il n'y a absolument rien dans la grammaire ou le vocabulaire hébreu de Genèse 1 qui dit au lecteur « Attention, ceci est une figure de style ».
Ah, donc il n'y a pas de balise poétique, en gros.
Voilà. Le texte est écrit avec tous les marqueurs narratifs de l'hébreu historique standard. Van Hoy a peur d'un effet domino, en fait. Si on commence à traiter un récit qui a l'air historique comme un simple cadre littéraire sans preuve textuelle, on perd tout critère objectif.
La fameuse pente glissante. N'importe quel miracle dans la Bible pourrait devenir juste une allégorie, c'est ça, hein?
C'est sa crainte. Mais la source mentionne une objection encore plus concrète de Van Hoy, qui est liée au livre de l'Exode.
Ah oui, l'argument des 10 commandements.
C'est son argument massue. Dans Exode 20, le modèle de la semaine de travail est gravé dans le marbre. 6 jours de labeur, 1 jour de repos. Et le texte dit texto, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et il s'est reposé le 7e jour.
Ce qui voudrait dire que l'humanité base son rythme de vie sur une action divine réelle.
Exactement. Van Hoy dit que si la Genèse n'est qu'un cadre imaginaire, alors on demande aux humains de calquer leur vie sur une simple trouvaille de style d'un écrivain anonyme.
Ce qui transformerait un impératif universel en un simple hommage poétique. C'est fort. Mais attendez, j'ai une analogie qui me vient. Imaginons que j'écrive une immense biographie de Napoléon Bonaparte, d'accord?
D'accord, je vous écoute.
Et je décide d'écrire tout le livre en alexandrin, avec des rimes parfaites. La structure est hyper artificielle, formatée à l'extrême. Mais cette contrainte poétique ne signifie pas que la bataille de Waterloo n'a jamais eu lieu, non ?
Non, bien sûr que non.
Bah voilà. Est-ce qu'une réalité historique ne peut pas tout simplement s'accommoder d'une mise en forme poétique ?
C'est un excellent point. Et Robert Newman, un érudit cité dans les notes via le livre de Genesis Debate de 86, explore précisément cette zone grise.
Ah, donc Newman essaie de concilier les deux.
En quelque sorte, oui. Newman admet volontiers la présence de cette architecture parallèle entre les jours. Il concède que le motif littéraire est indéniable. Mais il dit que détecter une symétrie poétique ne prouve pas que le texte n'est que de la poésie.
L'histoire réelle peut produire des motifs structurés.
Voilà. Il propose une focalisation sélective. L'auteur ancien aurait pu sélectionner des événements réels, chronologiques, mais choisir de les raconter de manière à faire ressortir une symétrie théologique.
D'accord. Mais si on suit cette idée que les jours sont des périodes historiques réelles, qu'elles fassent 24 heures ou des millions d'années, on percute de plein fouet une autre discipline, non ? C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah oui, vous parlez de la science moderne.
Oui, la géologie. Les strates rocheuses, la lumière des étoiles qui a mis des milliards d'années à nous attendre, les fossiles. Comment on fait avec ça ?
C'est l'impasse pour beaucoup. Comment réconcilier un récit apparemment court avec un univers extrêmement ancien ? Et c'est ce qui nous amène à une tentative de résolution assez vertigineuse, il faut le dire, abordée dans la source. La théorie de l'apparence de l'âge.
L'apparence de l'âge. Vous voulez dire un âge intégré, comme si l'univers avait été livré avec des signes de vieillesse préinstallés.
Précisément ça. L'hypothèse dit que, tout comme Adam aurait été créé adulte au premier jour, l'univers entier aurait été amené à l'existence avec des processus qui semblaient déjà en cours.
Waouh ! Donc la lumière des étoiles aurait été créée déjà en transit vers la Terre.
Oui. Les roches auraient été formées avec des isotopes radioactifs qui indiquent, à tort, des millions d'années de désintégration. Vanoui cite un vieux bouquin de White pour montrer jusqu'où cette logique peut aller.
Ah oui, The Warfare of Science and Christianity, c'est ça?
Oui. White y raconte comment certains érudits du 19e siècle soutenaient que l'Égypte antique n'avait en fait jamais connu de développement graduel. Dieu aurait créé les pyramides et les hiéroglyphes directement sur place pour simuler une longue civilisation.
Mais c'est un truc de fou! Donc un archéologue fouillant cette Égypte trouverait des poteries cassées que personne n'a jamais utilisées et des tombes avec des os de gens qui n'ont jamais existé. Mais c'est le scénario du film Matrix, c'est une simulation parfaite.
C'est exactement le danger philosophique de cette théorie. Et Vanoy s'y oppose radicalement. Il dit que cet argument prouve trop de choses. Si l'univers a été doté d'une histoire fictive, l'investigation scientifique devient totalement futile.
Mais oui, vu qu'on ne peut plus faire confiance à nos propres observations.
Cela soulève une question importante sur la nature même de Dieu dans cette théologie. Ça ferait de la divinité un grand trompeur qui a truffé la Terre de faux indices.
Mais poussons cette objection un peu plus loin pour voir. S'agit-il forcément d'une tromperie ? Imaginons un instant la création spontanée d'un chêne adulte au premier jour de son existence.
D'accord, un grand chêne.
Si un bûcheron vient l'abattre le lendemain, il va trouver quoi à l'intérieur ?
Des dizaines de cernes de croissance ?
C'est vrai, des cernes qui indiquent des années qui n'ont jamais eu lieu. Mais sans ces cernes, l'arbre n'aurait pas la force structurelle pour tenir debout, en fait. Les cernes ne sont pas là pour tromper le bûcheron, ils sont la condition mécanique pour que l'arbre fonctionne. Créer un univers mature ne nécessite-t-il pas intrinsèquement l'illusion de processus passés ?
C'est la meilleure défense possible de cette théorie de la maturité fonctionnelle, c'est vrai. Sauf que Vanoy réplique, d'accord pour les cernes de l'arbre, c'est structurel. Mais comment on justifie les fossiles d'animaux éteints avec des traces de maladies osseuses dans la roche ?
Ah ! Oui. Un animal mort avec un cancer de l'os n'est pas nécessaire à la fonctionnalité de la Terre.
Voilà. Les cadavres d'animaux qui n'ont jamais existé ne servent à rien structurellement parlant. Et c'est là que le court-circuit entre science et texte sacré est total. Si la science ne peut pas remonter au-delà de cet âge apparent, on a un énorme problème d'accès à l'information.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Si la nature refuse de nous donner des indices clairs, la seule méthode restante, c'est d'interroger un témoin oculaire, non ?
En principe, oui.
Sauf que, par définition, il n'y avait aucun humain pour observer la formation de l'univers. Moïse, qui est traditionnellement vu comme l'auteur ou le compilateur du texte, il n'était pas là. Par quel mécanisme il aurait obtenu un compte-rendu aussi détaillé ?
Les notes de Vanoy, justement, les différentes mécaniques de transmission documentées dans la Bible. Et il n'y a pas qu'une seule méthode, en fait.
c'est pas juste la dictée divine mot pour mot.
Parfois si, le texte affirme une dictée directe. D'autres fois, ça passe par des visions mystiques où le prophète reçoit des images symboliques et doit trouver ses propres mots pour les décrire.
Mais il y a aussi une approche beaucoup plus, disons, terre-à-terre, presque journalistique qu'on trouve dans la Bible.
Absolument, la recherche historique profane. Vanoy s'appuie beaucoup sur le prologue de l'évangile de Luc. Luc y dit ouvertement qu'il a mené son enquête, interrogé des témoins et compilé des sources pour écrire.
Il cite ses sources comme un vrai journaliste en somme.
C'est ça. Les livres des rois ou des chroniques font pareil. Ils citent continuellement les annales royales. Le processus littéraire humain est totalement assumé dans ces textes-là.
D'accord, mais qu'est-ce que le texte de la Genèse dit de ses propres sources à lui ?
Absolument rien, zéro. Le texte est muet sur sa propre Genèse. L'auteur a-t-il eu une vision céleste ou a-t-il rassemblé des traditions orales et des généalogies très anciennes ? Le texte ne le précise pas.
Mais du coup, pour Vanoy, ça pose pas un problème de fiabilité ?
Position théologique spécifique sur l'inspiration. Pour lui, la méthode d'obtention de l'information, c'est secondaire.
Secondaire ? Mais le moyen de transmission, c'est crucial pour savoir si c'est fiable, non ?
Dans le cadre évangélique qu'il enseigne, ce qui garantit la vérité, c'est pas la collecte, c'est la supervision du résultat final. C'est l'idée de l'inspiration verbale. Que Moïse ait utilisé des archives familiales ou reçu une révélation sur une montagne, l'Esprit-Saint aurait agi comme un filtre absolu pour empêcher toute erreur dans le produit final.
C'est hyper intéressant, parce qu'il y a cette tendance à vouloir que tout ce qui touche aux origines soit forcément entouré d'un mysticisme total. On imagine Moïse en transe avec un stylo. Mais si Luc a pu bosser comme un historien tout en étant inspiré, pourquoi on s'interdit de penser que l'auteur de la Genèse était un archiviste très méticuleux ?
Et cette idée d'un auteur qui travaille avec des matériaux préexistants, c'est exactement ce qui a déclenché un des plus grands séismes académiques des deux derniers siècles.
Ah, on y vient, l'archéologie.
Oui, parce que si Moïse a compilé des traditions, se pourrait-il qu'il ait emprunté, voire plagié, des récits appartenant aux grands empires voisins ?
La fameuse controverse pont babylonienne et le Nouma Elish. Et là, c'est vraiment la frise chronologique qui sert d'arme fatale pour l'accusation.
Si l'on relie cela au contexte plus large, les dates sont en effet un choc. Historiquement, la rédaction par Moïse est datée entre 1400 et 1290 avant notre ère.
D'accord.
Or, les fouilles en Mésopotamie ont exhumé le Nouma Elish, le grand récit de création babylonien. Et les dates de composition de ce texte tournent autour de 1700 à 2000 ans avant Jésus-Christ.
Donc bien avant la naissance même de la nation d'Israël, en fait.
Oui, de plusieurs siècles. Aux yeux du monde académique de l'époque, c'était simple. Le plus vieux texte était l'original, et le plus récent était forcément la copie.
La Genèse serait juste un mauvais plagiat ? C'est quand même incroyable. Et c'est George Adam Smith qui lance ça en 1875, avec The Chaldean Account of Genesis, c'est bien ça, hein ?
C'est ça. Quand il publie ses tablettes du British Museum, c'est un raz-de-marée. On y parle d'un abîme aquatique, de la séparation du ciel et de la terre, de la création de l'homme. Les parallèles sont trop énormes pour être ignorés.
Mais le débat se transforme en vraie guerre ouverte un peu plus tard, avec un certain professeur allemand, Friedrich Delitzsch. Les notes de Vanoy s'y attardent, et ce qui est fou, c'est l'histoire de famille derrière ce gars.
Ah oui, l'ironie est totale. Le père de Friedrich, Franz Delitzsch, était un pilier de l'orthodoxie biblique au XIXe siècle. Il défendait mordicus l'inspiration divine et l'unicité de la Bible.
Et son fils vient tout détruire une génération plus tard avec ses découvertes archéologiques sous le bras.
Exactement. En 1902, Friedrich sort « Babel and Bible », où il affirme qu'Israël n'a fait que recycler la culture babylonienne.
Et il pousse le bouchon encore plus loin, en 1920, non ? La charge devient carrément brutale.
En 1920, il publie « The Great Deception », la grande tromperie. Il qualifie l'Ancien Testament de document frauduleux, un ramassage de mythes volés, un anachronisme. Pour lui, la Genèse n'a aucune pensée originale.
C'est violent. Mais Vanoy introduit dans ses notes une contre-offensive intellectuelle menée par un certain Alexander Heidel. Qu'est-ce que Heidel trouve quand il lit vraiment le Nouma Elish, au lieu de juste regarder les dates ?
Heidel change totalement de méthode dans The Babylonian Genesis. Il arrête de chercher des petites ressemblances de vocabulaire et regarde la structure globale. Et il fait une observation dévastatrice pour Delitzsch.
Laquelle ?
Sur les 7 immenses tablettes de l'Nouma Elish, la création de l'univers et de l'homme n'occupe qu'une toute petite fraction du texte.
Bah, le reste du texte parle de quoi alors, si c'est pas la création du monde ?
Le reste parle de politique, tout simplement. Ça raconte les guerres sanglantes entre les dieux et surtout l'ascension d'un jeune dieu, Marduk.
Ah, donc c'est pas vraiment un texte scientifique ou cosmologique du tout ?
Pas du tout. Heidel conclut que l'Enuma Elish est un document de propagande politique pure et dure. Son vrai but, c'est d'expliquer religieusement pourquoi la ville de Babylone doit dominer les autres cités et pourquoi son dieu Marduk est le roi des dieux. D'ailleurs, ça se termine par une liste interminable des 50 noms de gloire de Marduk. La création du monde n'est qu'un prétexte pour couronner un dictateur divin.
C'est fascinant. L'analogie qui me vient pour expliquer l'erreur de Delitzsch, c'est d'imaginer qu'aujourd'hui un réalisateur indépendant sorte un film qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux et des planètes désertiques.
Oui, on voit le genre.
Un critique l'accuse direct de plagier Star Wars. Mais si le réalisateur utilise ce décor spatial spécifiquement pour critiquer Star Wars et proposer une philosophie complètement opposée, est-ce que c'est du plagiat ?
Non, c'est de la subversion.
Voilà. Deux cultures qui naissent dans la même région, en Mésopotamie, elles vont naturellement utiliser le même vocabulaire, les mêmes eaux primordiales ou dômes célestes, non ?
C'est le point de bascule de l'archéologie moderne. Utiliser les mots du voisin pour détruire sa vision du monde, c'est de la polémique, c'est pas du plagiat. Dans les Enuma Elish, le monde est créé par accident à partir d'un cadavre de déesse, tué dans une guerre de gangs célestes.
Très joyeux.
Très joyeux. Et la Genèse, elle, prend ces concepts pour affirmer l'exact inverse. Un créateur unique, pacifique, qui ordonne le monde comme un architecte. Le message est en fait une déclaration de guerre idéologique contre Babylone.
Quel périple on vient de faire grâce à ces notes. On a démarré avec la poésie des jours de la création, on a plongé dans l'angoisse de l'apparence de l'âge, l'idée que nos outils scientifiques pourraient être dupés par de faux souvenirs intégrés, on a cherché comment l'information se transmettait avant l'histoire, pour finir sur ce champ de bataille archéologique où être le texte le plus vieux ne veut pas dire dire la vérité.
Et ce que ce document démontre, c'est qu'on ne peut pas lire un texte fondateur en l'isolant de son environnement philosophique et politique. Chaque solution crée un nouveau paradoxe.
Mais au fond, pourquoi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, dans notre société saturée de données, devraient s'intéresser à des débats sur de vieilles tablettes d'argile ? L'enjeu dépasse l'exégèse. Cette analyse, c'est un manuel de survie intellectuelle. Qu'on lise un parchemin de 3000 ans ou un rapport de presse pondu ce matin, le réflexe doit être le même. Quelle est l'intention de l'auteur ? A-t-il vraiment accès aux faits ? Et surtout, ce récit apparemment neutre n'est-il pas façonné par les pressions d'un empire rival ?
Évaluer une source, c'est vraiment refuser d'être hypnotisé par la surface des mots.
Et la conclusion d'Alexandre Heidel sous le Enuma Elish jette une ombre assez troublante sur la façon dont s'écrit l'histoire. On a vendu ce texte au monde comme un noble mythe de création. Sous le microscope, le masque tombe. C'était une opération de propagande géante pour sanctuariser le pouvoir de Babylone sur ses voisins. Ce qui laisse planer une question redoutable à méditer après notre échange. Si les textes antiques, qu'on croyait innocents, étaient en fait des armes massives de légitimation politique, on peut se demander quelle proportion de ce qu'on nous enseigne aujourd'hui comme étant de l'histoire objective et factuelle n'est au fond qu'un cadre littéraire hyper sophistiqué, élaboré dans le seul but de maintenir en place les structures de pouvoir de notre époque. Peut-être que l'ingénierie du pouvoir n'a jamais vraiment changé de recette depuis Babylone finalement.